à tous. La grande table des idées à partir de 12h55. Jean-François Colosimo pour son nouvel essai « La religion française » qui paraît dans sa maison d'édition, les éditions du Cerf. Laïcité, une histoire millénaire et un sujet de controverse permanent. Nous en parlerons avec notre invité, donc dans la deuxième partie de la grande table. Mais d'abord, Nathalie Sarraute pour un oui. Elle a traversé le siècle passé. Née en Russie, émigrée à Paris, l'écrivaine se réfugie très tôt dans la littérature. Décédée en 1999 à 99 ans, elle laisse une œuvre intense et singulière, lue dans le monde entier. Tropisme, 1939, L'ère du soupçon, Les fruits d'or, Enfance. Aujourd'hui paraît surtout la première grande biographie qui nous parle d'elle à travers son œuvre, Nathalie Sarraute, chez Flammarion. Elle est signée de l'américaine Anne Jefferson, notre invitée jusqu'à midi et demi, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
J'ai toujours l'impression d'avancer extrêmement difficilement et dans une obscurité qui devient de la demi-obscurité, mais enfin ce n'est jamais une clarté limpide et c'est ça qui fait d'ailleurs l'intérêt du travail.
Un clair obscur pour l'auteur de Tropisme qui disait aussi écrire pour essayer de rendre compte de quelque chose qui lui échappe. Bonjour Anne Jefferson.
Bonjour.
Pas américaine, britannique, pardon, professeure émérite à l'université d'Oxford, auteur du Défi biographique en 2012, spécialiste du roman français de Stendhal jusqu'à Nathalie Sarraute, que vous avez rencontrée à plusieurs reprises, collaboratrice de la Pléiade qui lui était consacrée. Écrire une biographie de Nathalie Sarraute, c'est un défi?
Oui, c'était pas du tout évident. Elle était très hostile à l'idée d'une biographie d'elle. Elle faisait partie de la génération qui avait annoncé, selon Barthes, la mort de l'auteur. Et ce qu'elle redoutait par-dessus tout, c'était l'idée qu'on interprète son œuvre en rapport avec sa vie. Elle prétendait toujours que ce qu'elle racontait dans son œuvre, c'était ce qu'elle sentait dans son fort intérieur et pas du tout ce qui lui était arrivé dans la vie quotidienne, pour ainsi dire.
La vraie vie était ailleurs, hein, vous citez Rimbaud.
Absolument.
Mais ce sont des mots qui auraient pu sortir de la bouche de Nathalie Sarraute.
Tout à fait, oui. Ouais.
Donc vous n'avez pas choisi, ou vous avez plutôt choisi de vous appuyer sur son œuvre pour éclairer sa vie, mais pas le contraire. Hein.
Absolument. Ce qui m'intéressait dans cette biographie, c'était de découvrir le contexte dans lequel son œuvre avait été élaborée. Et en fait, ce contexte comprend une vie qui avait commencé, comme vous le disiez, en 1900, en Russie, et qui a terminé en 1999 à Paris. Elle a vécu la révolution en Russie, en fait, par personne interposée. Elle avait des amis, mais aussi des amis, des connaissances de sa famille qui étaient révolutionnaires. Elle a vécu l'occupation. Elle a vécu pas mal de choses dont elle ne parle jamais dans ses livres.
Alors on remerciera d'abord Flammarion de ne pas avoir gommé ou photoshopé la cigarette qu'elle a à la main, presque au bec, sur la photographie d'elle qui est en couverture de cette biographie que vous lui consacrez. Des zones d'ombre, pour reprendre cette idée d'obscurité et de clarté qu'elle évoquait, qu'on entendait dans sa bouche à l'instant en ouverture de l'émission. Est-ce qu'il reste beaucoup de zones d'ombre sur sa vie, même pour vous, qui avez épluché tous ces entretiens, sa correspondance, des archives familiales, revues et vues des photos d'elle qui nous en disent déjà beaucoup?
Oui, bien sûr, parce qu'elle n'a jamais tenu de journal intime. Elle n'aimait pas écrire de lettres, donc il n'y a pas de correspondance avec ses proches, enfin très peu, où on aurait pu découvrir sa vie, surtout pour la première partie de sa vie. Elle a commencé d'écrire en 1932, ça s'est fait très très lentement. Elle a fini par publier son premier recueil de textes, Tropisme, en 1939, donc elle avait 39 ans. Quand son premier livre a été publié, et puis vient la guerre, elle a continué d'écrire, mais il a fallu attendre jusqu'en 48, 49, pour que son premier roman, Portrait d'un inconnu, apparaisse. Donc elle avait bientôt, elle allait avoir 50 ans quand elle a publié le premier des romans pour lesquels elle est désormais connue. Donc la première partie de sa vie reste assez obscure. Et j'ai dû reconstruire le contexte de cette vie en lisant des mémoires, des entretiens d'elle, et aussi des livres d'histoire pour découvrir ce qui se passait à cette époque.
Il y a une question que vous lui poseriez aujourd'hui, si elle était en face de vous.
J'étais tellement impressionnée par elle, j'ai été tellement séduite par son charme que l'idée de lui poser des questions me viendrait avec beaucoup de difficultés. Non, en fait, je serais plutôt tentée de lui dire que chaque fois que je la lis, j'y découvre des choses qui m'avaient échappé auparavant. C'est une écriture d'une telle richesse qui a toujours du nouveau qu'on y découvre. Et je crois que ça lui aurait fait plaisir. Et je la vois sourire à l'idée que je lui dise quelque chose de ce genre.
50 ans, c'est tardif pour ce premier grand livre, comme vous l'évoquiez à l'instant, Anne Jefferson. Et pourtant, vous dites qu'elle était vous l'écrivez, une très grande lectrice, qu'elle s'est très tôt réfugiée dans la littérature. Quelle formation littéraire a-t-elle eu, Nathalie Sarraute ?
Oui, c'est une formation assez particulière, surtout pour une écrivaine française, parce que tout en étant née russe, le français, comme elle le prétendait elle-même, c'était sa première langue dans la mesure où elle a fait toutes ses études en France, toute sa scolarité. Donc elle s'est imprégnée de la littérature française à partir d'un très jeune âge. Et puis, par la suite, étant quand même bilingue et en fait quadrilingue, parce qu'elle parlait également l'anglais et l'allemand, elle a lu...
Deux pays, pardon de vous interrompre, où elle a étudié aussi, hein, où elle s'est rendue assez
jeune. Absolument. Voilà. Elle a fait une année d'études à Oxford et puis elle est partie à Berlin. Et puis elle avait aussi parlé l'anglais à la maison avec les nounous de sa demi-sœur. C'était des Anglaises parce que c'était chic de pouvoir parler l'anglais dans des familles bourgeoises comme celle où a grandi Nathalie Sarraute. Du coup, elle lisait le russe, l'anglais et l'allemand en dehors du français. Et dans les années 20, où elle avait 20 ans, elle a suivi tout le modernisme de l'époque. Elle a lu Proust, qui venait de mourir, elle a lu Rilke, dont elle a découvert les carnets de Malte Lauritz-Brigge, et elle a lu aussi James Joyce et Virginia Woolf. Bref, c'est une formation très cosmopolite qu'elle a eue, et je crois que par là, elle se distingue en quelque sorte de ses contemporains qui sont restés plus français dans leur lecture.
Et vous écrivez aussi que pendant son séjour à Berlin, vous le racontez, elle va faire la connaissance avec l'œuvre de Thomas Mann, qui sera pour elle une révélation, en plus de Rilke, qu'elle aimait beaucoup aussi. Elle va s'apercevoir, écrivez-vous, pour la première fois que sa propre sensibilité pouvait donner matière à littérature. Sa propre sensibilité, c'est pas sa propre vie, dont elle refusait de faire la matière, en tout cas ouvertement, de son œuvre. Hein.
Oui, c'est absolument ça. Elle disait toujours qu'elle se racontait bien dans ses livres, pourvu qu'on comprenne que ce qu'elle racontait, c'était justement ce qui lui arrivait dans le fort intérieur, sa propre sensibilité, comme vous le dites, sa façon de vivre ses relations avec autrui, sa façon de réagir à la moindre stimulation qui vienne de l'extérieur. Et c'est cette matière-là qu'elle creuse dans ses livres au lieu de raconter qu'elle était née en Russie ou je sais pas quoi.
Elle écrivait, vous l'évoquez, pour explorer la réalité psychologique, la nôtre, mais aussi celle de ses personnages. On l'écoute.
La littérature, d'abord, c'est votre affaire. Vous écrivez parce que vous en ressentez le besoin.
Et parce que j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose qui existe. Il me semble, j'ai peut-être l'illusion, que c'est vrai. Et j'ai envie de le montrer. Il me semble que ça n'a jamais été montré comme ça. Non pas que les écrivains du passé n'ont pas vu ça. On pensait bien que ces tropismes, ils les ont sentis. Mais ils avaient autre chose à faire. Ils ne s'en sont pas occupés. Et moi, il me semble que je les ai pris pour eux-mêmes et que ça a nécessité chez moi un travail sur l'écriture. Il fallait trouver une forme dans laquelle ça pourrait être se manifester au dehors. L'attention était distraite par le personnage, par l'intrigue. Là, il fallait que l'attention se concentre sur ses mouvements intérieurs et que le lecteur ait l'impression de les vivre du dedans, de s'y plonger quand il peut, s'il n'a pas mieux à faire.
Voilà, extrait d'un Radioscopie de 1989, Nathalie Sarraute racontant son rapport à l'écriture, à la fois son besoin d'écrire, mais toujours aussi cette recherche de forme. Elle n'aimait pas tellement les étiquettes roman, nouveau roman, sur ces genres.
Non, ouais. Non. Roman, nouveau roman, non, c'était plutôt un format auquel elle est restée en quelque sorte fidèle jusqu'à la fin de sa vie. C'est des formats plus courts. Quand on regarde de près ses romans, on constate qu'en fait, comme elle le dit dans cet extrait, il n'y a pas d'intrigue continue. On passe d'une espèce d'instantané à un autre. Et elle se sentait plus à son aise pour creuser un moment qu'elle avait senti pour essayer de faire comprendre ce qui était arrivé et pour trouver le moyen d'en représenter l'équivalent au moyen d'images, d'analogies, d'imageries, de métaphores. Elle avait une imagination très riche pour inventer des équivalents d'expériences qui se laissent très difficilement traduire telles quelles.
Elle n'aimait pas non plus être assignée à rien, à aucune identité, mais elle n'aimait pas non plus être rattachée en permanence à ce courant du nouveau roman. Est-ce qu'on a eu tort pour autant de le faire ?
Difficile. Elle était en quelque sorte nouveau romancier bien avant l'époque du nouveau roman. Elle cherchait à réinventer le format du nouveau roman. Et c'est elle qui, en quelque sorte, qui a lancé le nouveau roman en 56 avec ses essais « L'ère du soupçon », dont deux avaient déjà été publiés dans les temps modernes de Sartre à la fin des années 40 et en 50. Donc le nouveau roman n'était déjà pas tout à fait nouveau, mais ce recueil d'essais a eu son impact. Alain Rogrier l'a remarqué et il avait la fibre publicitaire et c'est grâce à lui, en quelque sorte, que Nathalie a pu être nommée, en quelque sorte, l'abbesse, on le disait comme ça, du nouveau roman aux côtés de Rob Grillet. Mais elle cherchait toujours à s'en démarquer pour insister sur sa propre singularité.
Alors vous citez quelques-uns de ses compagnonnages, Sartre, Rob Grillet, mais vous écrivez aussi que malgré ses liens avec des multiples mondes, elle ne fit jamais vraiment partie d'aucun. Si on prend ce petit monde de l'édition et de la littérature, quelles seront par la suite ses relations avec à la fois ses pairs, mais aussi avec la critique, et très important, vous leur consacrez un chapitre, avec ses lecteurs.
Justement, elle se méfiait beaucoup des critiques. Elle s'en méfiait parce que elle les soupçonnait de ne jamais lire ses livres jusqu'au bout, de mal comprendre ce qu'elle voulait dire. Donc, elle les suivait avec une attention très méfiante et soupçonneuse. Par contre, elle avait un rapport très proche avec ses lecteurs. Quand elle écrivait, c'était pour atteindre le lecteur pour faire en sorte que lui comprenne ce dont elle parlait. C'est un, on sent dans son écrit un appel très fort vers le lecteur, comme si elle disait, toi, tu me comprendras. Toi, c'est toi que je cherche à convaincre de la vérité, de la réalité que j'essaie de transcrire dans mon écriture. Donc, on peut, si vous voulez, faire une différence, une très grande différence entre les critiques d'une part, qui pour elle, à son avis, n'étaient pas forcément de très bons lecteurs, et les vrais lecteurs qui ne racontaient pas vraiment ce qui leur arrivait, mais dont elle attendait quand même qu'ils disent « oui, je comprends ». Ce que vous me racontez, c'est une vérité que vous me faites reconnaître des choses qui se passent chez moi et que je reconnais grâce à votre écriture. C'était ça le scénario idéal pour elle du lecteur devant les livres qu'elle lui présentait.
Et elle était plutôt Simone de Beauvoir ou Hannah Arendt, Nathalie Sarraute, à cette époque, dans ce monde-là?
Elle n'était pas Simone de Beauvoir.
Du tout. Vous parlez même d'une étrange et désagréable impression ressentie par Mary McCarthy face à l'aversion qu'éprouvait Nathalie Sarraute pour Simone de Beauvoir.
Oui. Elle ne s'en rendait pas pour plusieurs raisons. Je crois que la raison principale, c'était quand même une différence sur la littérature. Pour Nathalie Sarraute, ce que racontait Simone de Beauvoir dans ses romans, c'était bien trop réaliste. Elle s'occupait de l'extériorité des choses, des questions sociales, politiques, et que, aux yeux de Nathalie Sarraute, ça faisait en sorte que les romans de Simone de Beauvoir restaient très traditionnels. Donc, elle prenait pas de risques dans ce qu'elle écrivait. Alors que pour Nathalie Sarraute, elle avait toujours l'impression d'oser des choses qui n'avaient jamais été faites. Donc, elle méprisait en quelque sorte Simone de Beauvoir pour sa timidité, en quelque sorte. Mais il y avait aussi une différence d'attitude. Nathalie Sarraute avait un sentiment très fort de l'importance de l'égalité entre les gens. Et ce qu'elle éprouvait aux côtés de Simone de Beauvoir, c'était un sentiment de hiérarchie qui lui répugnait profondément. Donc, je ne sais pas si c'était fantasmé par elle, mais c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les deux femmes ne s'accordaient sur presque rien.
Et là, il y a quand même un paradoxe. Vous évoquiez l'importance pour elle de l'intériorité, des mouvements intérieurs de ses personnages dans ce livre. Mais en même temps, elle se méfiait fondamentalement des médecins de l'âme, comme elle les appelait, de sa propre intériorité. Elle ne voulait pas faire l'analyse tout au long de sa vie. Cependant, écrivez-vous, elle demeura encline à l'angoisse et à l'obsession, malgré, même si elle avait fréquenté une psychologue, Janet, à laquelle elle rend d'ailleurs souvent hommage dans ses livres, d'une certaine manière. Elle était angoissée, elle était aussi discrète, elle était aussi pudique en public. Est-ce que c'était aussi son tempérament dans le privé? Est-ce que l'image qu'elle donnait d'elle en public était fidèle à ce qu'elle était vraiment?
Oui. Elle a rencontré, on ne voyait presque jamais la personne angoissée qu'elle était en réalité aussi à côté. On tombait sur quelqu'un de très vivant, qui aimait beaucoup rire, quelqu'un de très séduisant, quelqu'un qui avait beaucoup de charme, beaucoup de modestie. Elle était pudique, mais elle était en même temps très ouverte. Elle était toujours très accueillante, rieur. On s'amusait bien avec elle. Donc ce côté-là, on le retrouve dans ses livres, mais il faut savoir que c'est là pour y être sensible. L'impression qu'on a principalement en la lisant, c'est de se retrouver dans ce monde où c'est l'angoisse qui gère les relations qui sont parfois extrêmement violentes entre les personnages qui ne le sont pas dans ses livres.
On va écouter la voix de Nathalie Sarraute sur son rapport aussi à l'écriture. La poésie, entre la prose et le roman, qu'y a-t-il, Nathalie Sarraute?
Toute écriture, même romanesque, devrait être une écriture poétique, c'est-à-dire qu'elle devrait être primordiale. Le rôle de l'écriture devrait passer avant tout, ce serait le rôle dominant, ce serait le rôle du langage.
Le langage doit dominer si on veut vraiment que ce soit une œuvre littéraire digne de ce nom. Tandis que dans le roman habituel, dans le roman qui, à mon avis, est hors de la littérature, le langage est transparent, on traverse le langage pour voir ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Et le langage lui-même, on ne le voit pas. Il faut qu'on voit à quoi le langage se rapporte, mais il faut aussi que le langage, par lui-même, donne une sorte de plaisir. Le plaisir que j'en tire moi-même en écrivant. Si le lecteur n'a pas ce plaisir qui lui vient de la forme, de l'écriture, de la sonorité, etc., ben ce n'est plus du langage poétique, c'est de la prose plate. Looking through the mirror, trying to find another man there. Been so many years, but I wish they'd understand me. And your voice stays on my mind. I've been waiting for the right time, babe. Got no time for tears, moving on and it's alright. Deep in my soul, the fire abides, burning bright and out of control, to shine the light. Deep in my mind, the thought, the hope, I done turned the day into night. Now I know. Deep in my soul, the fire abides, burning bright and out of control, to shine the light. Deep in my mind, the thought, the hope, I done turned the day into night. Now I know. On the radio, turn me up above the static, above the static. Everywhere I go, see reflections of the madness. And your voice stays on my mind. I've been waiting for the right time, baby, baby. Got no time for fear, in the zone and it's alright, baby, yeah. Deep in my soul, a fire abides, burning bright and out of control, to shine the light. Deep in my mind, a thought, the hope, I done turned the day into night, and now I know. Deep in my soul, a fire abides, burning bright and out of control, to shine the light. Deep in my mind, a thought, the hope, I done turned the day into night, and now I know.
La voix du chanteur américain José James, présent sur l'album du trompettiste Eric Truffaz et de son quartet qui sont en balade sur de nouveaux territoires sonores. L'album s'appelle Lune Rouge, il est sorti le 11 octobre et il nous emmène dans cette autre galaxie. Ils seront néanmoins de retour tous parmi nous le 25 novembre au Café de la Danse à Paris.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
La grande table en compagnie aujourd'hui de la professeure à l'université d'Oxford, la britannique Anne Jefferson, pour sa biographie de Nathalie Sarraute qui paraît aujourd'hui chez Flammarion. 20 ans après la mort de l'écrivaine Nathalie Sarraute, on revient sur la vie et l'œuvre de cette grande dame de la littérature, connue aussi, Anne Jefferson, pour ses engagements, même si elle ne voulait pas s'identifier à travers eux. Elle a parcouru le XXe siècle, elle n'a pas pu s'extraire des soubresauts et des grands mouvements quand même de ce siècle, de cette époque. Hein.
Tout à fait, elle a grandi dans un milieu russe d'émigrés plus ou moins révolutionnaires. Son oncle est décédé à la suite d'un attentat terroriste qui lui a valu de mourir soit par accident, soit par la police secrète du tsar. Et tout le milieu dans lequel elle a grandi, une fois qu'elle est venue à Paris, d'abord à l'âge de 2 ans et puis de nouveau à l'âge de 9 ans, tout ce milieu, c'était un milieu très politisé de révolutionnaires russes. Donc, elle a toujours eu, comment dire, une fibre de gauche, peut-être un peu romantisé, inspiré par ce milieu et ce qui était arrivé à l'oncle qu'elle avait beaucoup aimé et qui lui avait été assez proche. Ensuite, elle a lutté dans les années 30, pour le droit de vote des femmes. En tant que femme, elle avait compris de par sa propre expérience que les choses, la vie était moins bien arrangée pour les femmes que pour les hommes, pour les filles, moins bien arrangée pour les filles que pour les garçons. Elle faisait partie de cette génération d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, qui voulait entrer, ou qui entrait déjà dans les professions libérales, mais où elle tombait sur des préjugés, des obstacles qu'on opposait aux femmes. Donc elle a lutté pour le droit de vote. Après, en tant que juive, dont elle ne se réclamait pas terriblement, mais pendant l'occupation, elle a dû se déclarer juive, elle a dû se cacher, elle a été dénoncée et ça lui a laissé un sentiment très profond de l'injustice de ce genre d'antisémitisme, d'exclusion.
Et ça explique en partie aussi sa relation avec la question de l'identité. Nathalie Sarraute, ne le savait que trop, écrivez-vous, fixer une identité, qu'elle soit russe, juive ou féminine, peut être un moyen de ségrégation et d'exclusion.
Absolument.
Est-ce qu'elle se vivait féministe? En tout cas, elle n'écrivait pas au féminin. Jamais je ne pense en tant que femme, dira-t-elle à son amie Sonia Riquiel, je me mélange, je refuse de participer à des mouvements qui séparent les hommes et les femmes.
Oui, c'était tout à fait sa position et ça concernait tout autant le féminisme que la question de son identité d'origine russe et juive. Elle cherchait à éviter toutes ces classifications, ces catégorisations parce que ça passait à côté de la réalité. C'était pas là la vie réelle, mais c'était aussi le moyen d'exclure une certaine expérience, d'exclure une certaine catégorie de personnes. Et pour elle, je crois que l'écriture représentait, comme elle le dit dans la citation que vous venez de rappeler, que pour elle, l'écriture, c'était le moyen d'échapper à toute espèce d'identité. On était tout et à la fois, elle disait rien dans l'écriture.
Merci beaucoup à vous, Anne Jefferson. S'il fallait garder un roman, on recommanderait peut-être aux auditeurs Les Fruits d'or. S'il fallait garder un essai, on encouragerait tout le monde à relire ou lire Tropisme, bien sûr. Et une pièce de théâtre, pour un oui ou pour un non, à ce sujet. France Culture vous propose d'écouter ce dimanche, entre 21h et 23h, lors d'une soirée consacrée à Nathalie Sarraute, dans Théâtre et compagnie, le Pour un oui ou pour un non, dirigé par Jacques Lassalle, réalisé par Étienne Vallès, à l'occasion donc des 20 ans de la mort de l'écrivaine. Et puis Une vie, une œuvre lui sera aussi consacrée, ce sera ce samedi à 15h par Christine Le Serre. Merci à vous.